Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Dieu Tout-Puissant, donnez-nous la pureté de cœur et de la pureté du cœur et de l'esprit pour entrer dans l'intelligence des mystères que nous honorons en ces fêtes solennelles. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. L'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de notre Seigneur aux nations. Cette manifestation de notre Seigneur aux nations, pour publique et patente qu'elle fût, n'en demeura et n'en demeure pas moins un mystère caché aux yeux de ceux qui périssent, une obscurité impénétrable pour ceux auxquels il n'est pas donné l'intelligence des mystères de la foi. Rien de plus public que cette manifestation, puisque les mages sont venus d'Orient et ont mis Jérusalem, la ville de Jérusalem, en émoi, sans dessus-dessous, en quelque sorte, moralement parlant, en venant adorer le roi des Juifs, qui était supposé être né. C'est une manifestation générale, publique, et pourtant certains ont vu notre Seigneur, et d'autres, tout en comprenant qu'il était né, ne sont pas allés le voir, et d'une certaine manière n'ont pas cru qu'ils n'ont pas reçu la foi qu'il était né. La lumière éclatante de la divinité, voyez-vous, mes très chers frères, éclaire ou elle aveugle, comme le soleil. Bienheureux ceux qui ont des yeux en bonne santé pour voir. Nous avons plusieurs choses à voir dans cette magnifique fête de l'Épiphanie, mes très chers frères, avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, dans le premier point, nous verrons pourquoi les rois mages ont reconnu l'étoile. Nous parlerons brièvement de la prophétie de Balaam. Nous verrons aussi pourquoi Jérusalem fut troublée à l'annonce de la naissance du roi. Et cela nous amènera à nous poser la question exégétiquement, que signifie Hérode, la figure d'Hérode dans cet évangile. Dans notre deuxième point, nous verrons que la grâce doit féconder l'enseignement reçu par l'Église. Nous verrons comment on peut malheureusement rendre cet enseignement reçu par l'Église stérile. Et nous verrons que les effets de la grâce sur la foi, quels ils sont, et de la vraie façon d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminerons en troisième point en voyant certaines considérations qui nous permettront de savoir comment vaincre Hérode en nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
C'est une histoire de l'Évangile bien connue que celle, mes très chers frères, de l'arrivée des rois mages d'Orient à Jérusalem. Ce sont des personnages qui sont très connus des chrétiens, enfin en tout cas qui l'étaient. Ce sont des personnages qui sont très chéris aussi des chrétiens. Nous savons que leurs reliques sont en Allemagne. Nous savons que ce sont des personnages qui, par la suite, ont été évangélisés la partie du monde qui leur a été assignée par Dieu et qui sont morts martyrs. Il y a quelque chose de très attachant, de très touchant dans ces trois rois mages. Gaspard, Balthazar et Melchior. Il y a plein de choses aussi stupides qui sont dites d'eux, bien entendu, des films ridicules qui ont été faits sur eux, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'occasion de parler de ces choses mondaines. Il se trouve que les rois mages ont quelque chose qui nous touche peut-être d'une façon très particulière, c'est qu'ils sont les prémices des nations. Nous sommes l'Église issue des nations, nous avons eu cette grâce incompréhensible et insigne d'être évangélisés par la grâce, par les apôtres, et de recevoir la grâce. Et ces mages, un petit peu comme Adam a agi pour nous lorsqu'il a choisi de désobéir à Dieu, et notre premier père, eh bien, il se trouve que les rois mages sont en quelque sorte nos pères dans l'adoration qu'ils ont rendue à notre Seigneur. Nous voyons en eux de parfaits chrétiens, des chrétiens qui cherchent Dieu, des chrétiens qui suivent le signe que Dieu leur a envoyé, qui se laissent enseigner par l'Église, et qui, recevant la grâce, trouvent notre Seigneur Jésus-Christ sur les genoux de sa mère, la très sainte Vierge Marie. Et ils l'adorent, l'enfant Jésus. Le Messie qu'il cherchait, il savait qu'il devait naître et qu'il devait être révélé par une étoile. Dans l'Ancien Testament, cela est dit extrêmement clairement. Le Messie a été prédit il y a extrêmement longtemps, du vivant encore de Moïse, de Moïse, par un prophète qui n'était pas juif, mais qui était un vrai prophète de Dieu, et qui était un prophète habitant en Mésopotamie, et qui s'appelait Balaam. C'était une histoire extrêmement étrange que cet homme, que ce prophète, donc qui n'était pas juif, qui était prophète du vrai Dieu, puisque nous voyons Dieu lui parler, Dieu lui donner des commandements, etc. Il y a cette fameuse histoire de l'ânesse de Balaam qui a vu l'ange avant que son maître ne le voie en premier. Ce prophète, Balaam, donc, qui était mésopotamien, a été appelé, convoqué en quelque sorte, par le roi de Moab, qui s'appelait Balak, et afin qu'il maudisse le peuple d'Israël, qu'il monte sur la montagne, et que contemplant le peuple d'Israël dans la plaine, eh bien, il maudisse le peuple d'Israël, sachant que Balak voulait s'assurer que le peuple d'Israël soit maudit par le vrai Dieu, et non pas par un Dieu quelconque qui n'existe pas, ou un faux Dieu, ou un démon sans puissance sur le peuple d'Israël. Et Balaam, qui était un vrai prophète, mais qui néanmoins, donc ce n'est pas un faux prophète, mais néanmoins, il était un ami de l'argent, il était un ami des puissants, c'était un flatteur, c'était quelqu'un qui, à l'occasion, en tout cas au moins une fois dans sa vie, a pu être gagné par l'appât du gain. Donc il est allé, après avoir été averti par Dieu qu'il ne pourrait pas maudire le peuple d'Israël, il y est allé, et par trois fois, eh bien, Balak a préparé sur son ordre toutes sortes d'autels, toutes sortes de sacrifices très coûteux, afin de consulter Dieu, que Balaam consulte Dieu, et que, recevant de Dieu une communication, il maudisse le peuple d'Israël. Mais par trois fois, comme vous le savez, c'est une histoire qui est à la fois magnifique et terrifiante, par trois fois, Dieu met, le Saint-Esprit s'empare de ce prophète, Balaam, et met dans sa bouche des paroles de bénédiction, de telle sorte que Balak, le roi de Moab, était absolument furieux d'avoir dépensé tant d'argent pour arriver finalement à faire bénir le peuple d'Israël par le Dieu Très-Haut. Et nous savons, car cela est dit ailleurs dans l'Écriture, nous savons que Balaam, qui aura été forcé par Dieu de bénir le peuple d'Israël, donnera ce fameux conseil à Balak, qui enverra des femmes païennes dans le peuple des Hébreux, qui pousseront les Hébreux à adorer le Belphégor, ce dieu immonde, et à commettre toutes sortes d'impuretés dans le cadre de ce culte, de telle sorte qu'une grande plaie s'est abattue sur le peuple d'Israël, et ce fut Phinéas, un lévite, qui a mis un terme de la façon que vous savez, et c'est à partir de là que la maison de Phinéas a été bénie par Dieu, et que les grands prêtres, les grands sacrificateurs, ont été toujours pris de la maison de Phinéas, par voie dynastique. Donc, nous voyons que Balaam a été, par un certain côté, roublard et mauvais, puisqu'il a donné, ce bon conseil à ce roi païen afin de corrompre les enfants d'Israël. Nous savons aussi qu'il a été tué par les Hébreux, de la même manière que Balak a été plus tard tué par les Hébreux. Il a été tué. Néanmoins, entre-temps, non seulement il a béni le peuple d'Israël de plusieurs grandes bénédictions, mais encore, il lui a été donné à lui, probablement parce qu'il était un prophète tiré de la gentilité, il lui a été donné à lui de prédire la venue du Messie, la personne et la venue du Messie. Sans entrer dans les détails, voici ce qu'il a dit. « Je le vois, mais non comme présent. Je le contemple, mais non de près. » Voulant dire que le Messie viendrait longtemps après l'époque où il vivrait. « Un astre sort de Jacob et un sceptre s'élève d'Israël. » Dans le chapitre 24e des Nombres. Un astre sort de Jacob. Et depuis ce temps-là, les mages, c'est-à-dire ceux qui ont recueilli une certaine tradition de ce vrai prophète, mais quoique déviée, en Mésopotamie, se sont transmis cette prophétie qu'un jour, longtemps après Balaam, eh bien, un jour, un astre apparaissant dans le ciel révélerait la naissance du roi des Juifs, selon cette parole, un sceptre s'élève d'Israël. Donc, nous voyons que lorsque les rois mages sont venus à Jérusalem, ils sont venus sur la foi de ce signe. Les signes, nous dit saint Paul, sont donnés pour les incroyants. Les signes ne sont pas donnés pour les croyants qui croient, puisqu'ils ont la foi, ils sont donnés pour les incroyants, pour les amener à croire. Ils ont vu ce signe, ils ont vu cet astre sortir de Jacob, et ils ont compris qu'un sceptre s'était élevé en Israël. Et ils sont donc venus à Jérusalem, le lieu naturel où devait se trouver le roi, et où se trouvera notre Seigneur lorsqu'il viendra régner. Et il se trouve qu'ils sont allés à Jérusalem, cherchant le roi des Juifs qui venait de naître, et ils le cherchaient, non pas comme ce brave homme qui plus tard dans la vie de notre Seigneur lui dira « Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» auquel notre Seigneur répondra « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon !» disant que si nous devons appeler notre Seigneur bon maître, nous devons confesser sa divinité, eh bien, les rois mages sont venus à Jérusalem, non seulement pour rendre leurs hommages à ce roi qui était né, ce roi dont la naissance a été annoncée d'une façon surnaturelle, mais pour l'adorer. Et c'est pour cela qu'ils disent, ceci, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Cette étoile ne marquait pas simplement la naissance d'un roi temporel, il est aussi roi temporel, mais il est surtout le roi de l'univers. Il est le roi du monde, il est celui qui règne par droit, parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, par lequel tout a été fait et en lequel tout subsiste. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Il est donc Dieu, les rois mages, venait adorer le Fils de Dieu. Voilà quelque chose qui explique, par l'Ancien Testament, qui est par les prophéties, qui explique pourquoi les rois mages ne sont pas venus là, comme ça, par une sorte de miracle spontané de Dieu, qui aurait pu le faire s'il l'avait voulu, mais ils sont venus sur la foi de la prophétie de Balaam. Et c'est ce que disent les pères, les commentateurs, qui expliquent cet évangile. C'était donc la prophétie de Balaam a donc été réalisée à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que plusieurs pères nous disent que l'étoile même qui a guidé les mages vers la crèche était notre Seigneur Jésus-Christ manifesté comme cet astre sorti de Jacob et ce sceptre qui s'est élevé d'Israël. Voilà pour l'aspect exégétique, voilà pour l'aspect historique de cette parution des mages à Jérusalem. Il est important de le savoir, encore une fois, de peur de s'imaginer, comme on l'entend parfois, à tort bien entendu, que c'était par des traditions qui étaient propres à ces peuples païens, finalement ces adorateurs des démons, que le roi des Juifs a été connu, et d'une certaine manière, les mages seraient supposés manifester les meilleures dispositions des païens par rapport à celles des Juifs. Non, c'est un prophète de Dieu qui a enseigné aux mages qu'un astre se lèverait de Jacob. Ils sont donc venus sur la foi du vrai Dieu et ils sont venus chercher dans le peuple d'Israël la réalisation de cette prophétie. Il ne faut surtout pas s'imaginer que les mages ont mérité en quelque sorte par eux-mêmes de venir à Jérusalem suite à une révélation qui leur a été faite à eux indépendamment du peuple de Dieu. C'est bien un vrai prophète, quoique non juif, mais non hébreu, mais qui leur a appris. Donc c'est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. À cette nouvelle, nous dit l'évangile de Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il faut savoir que le roi Hérode, comme nous le savons, puisque ce sera lui qui fera exécuter le massacre des innocents, mais le roi Hérode était un homme si cruel et si méchant que je ne sais plus quel empereur disait, puisque c'était un roi vassal des Romains, il disait « Je préfère être un chien ou un porc d'Hérode plutôt que son fils. » Puisque dans cette famille, eh bien, ce roi a massacré plusieurs de ses propres enfants qui lui faisaient de l'ombre. Donc à tel point que, quoique vassal et allié des Romains, il faisait horreur même à l'empereur de l'époque. C'est une chose connue que l'on trouve dans les historiens, vous pourrez retrouver le nom de cet empereur assez facilement. Donc Hérode était un roi dur, cruel, qui était juif, qui sa famille s'était convertie au judaïsme quelques générations plus tôt. Il se trouve que ce n'était pas un roi davidique, c'était le roi qui régnait sur la Palestine à cette époque-là, en accord avec les Romains. Il se trouve que s'il a été troublé, c'est parce qu'il savait qu'il n'était pas le roi légitime, quoiqu'il fût une autorité légitime, ce n'est pas un usurpateur, mais disons ce n'est pas un roi davidique, et il se trouve que l'annonce de la naissance du roi des Juifs, qui venait de naître, comme il savait très bien qu'aucun enfant n'était né dans sa famille récemment, il fut troublé, Il fut troublé dans son orgueil. Et l'évangéliste dit, et tout Jérusalem avec lui, parce que évidemment, quand un bon roi est troublé, tout son peuple est troublé avec lui parce qu'il le soutient. Mais lorsqu'un mauvais roi, un roi cruel et dur, est troublé, tout le peuple frémit parce qu'il se demande ce qui va se passer par la suite. Et nous savons, en voyant Rachel pleurer ses enfants, nous savons de quoi il a été capable, puisqu'il a été capable de massacrer tous les enfants et les petits-enfants de toute la région de Bethléem. Donc à cette nouvelle, nous dit l'évangéliste, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Voyez-vous, mes très chers frères, tirons-en une conclusion ou une application pour nous, pour notre vie chrétienne, car rien ne servirait de déblatérer contre Hérode si ce n'était pas pour traquer le Hérode en nous-mêmes, évidemment. Quand la volonté de Dieu contrevient à notre ambition ou à l'idée que nous nous faisons, une certaine idée que nous nous faisons de notre devoir, le trouble s'installe. La volonté propre. Parce que notre volonté propre, ayant été jusque-là confondue avec celle de Dieu, la manifestation de la volonté de Dieu qui vient contredire notre volonté propre, nous plonge dans le trouble. Hérode était roi d'Israël, il a fait beaucoup de choses, il a construit, c'est un grand, grand bâtisseur, il n'a pas oppressé son peuple comme un mauvais roi, ce n'était pas un tyran. C'était un roi dur et cruel, mais il se trouve qu'aujourd'hui encore, on trouve les magnifiques bâtiments qu'il a construits, des bâtiments imprenables dans le désert, il a fait construire une citadelle sur une colline entièrement artificielle, qui est d'ailleurs très belle, même ses ruines sont encore très belles, on peut les visiter en Terre Sainte. Hérode a fait beaucoup pour embellir et fortifier son peuple. Il a même fait bâtir, il a fait rebâtir en quelque sorte, enfin il a fait embellir le temple, à tel point que même les disciples de notre Seigneur étaient admiratifs devant les pierres qui ont été employées, qui étaient des pierres très grandes et très belles. Donc Hérode a fait beaucoup pour le peuple de Dieu. Ne nous imaginons pas, encore une fois, que Hérode était un tyran sanguinaire qui avait ruiné les Juifs de son époque. Hérode est un roi qui, par un certain côté, abstraction faite de sa cruauté, d'ailleurs qui s'exerçait surtout auprès des siens, sur sa propre famille, eh bien, il a fait beaucoup pour le peuple juif qui était sous le joug des Romains. À cette époque-là, les Juifs pouvaient s'enorgueillir d'avoir un roi et de ne pas être les vassaux directs des Romains. Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Cela nous montre que lorsque nous imaginons, après un certain nombre d'années de vie et de vie chrétienne menée à notre guise, que nous nous imaginons que nous avons fait beaucoup pour Dieu, lorsque la volonté de Dieu nous est manifestée, ou en tout cas qu'elle se révèle assez objectivement pour que nous puissions avoir, que le doute puisse traverser notre esprit, que nous puissions avoir un doute que peut-être jusqu'à présent nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, le trouble s'installe. Et quand on dit le trouble, c'est pas simplement une légère agitation passagère, c'est véritablement quelque chose qui nous remue jusqu'au plus profond de nos entrailles, si j'ose dire. Rassemblant, que fait-il? Là encore, on ne peut pas lui reprocher d'avoir mis les mages en prison, de les avoir fait exécuter, de les avoir expulsés de son pays. Que fait-il? Vous voyez, que fait le chrétien qui a cru jusqu'à présent faire la volonté de Dieu en suivant sa volonté propre, parce qu'il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas mauvaises, comme Hérode a fait beaucoup de choses pour le peuple juif qui n'étaient pas mauvaises, eh bien, que fait-on? Eh bien, lorsque on a certaines grâces pour ne pas mal réagir tout de suite, il se trouve qu'on consulte l'Église, on consulte, comme Hérode, il rassembla tous les princes, des prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquit d'eux, d'où devait naître le Christ. Il consulte Hérode, ce chrétien qui a fait sa volonté propre et qu'il a cru, qu'il a prise pour la volonté de Dieu jusque-là. Il consulte l'Église, il consulte la parole de Dieu. Ce n'est pas une erreur radicale qui le caractérise, mais un aveuglement. Il rassemble les princes des prêtres et les scribes du peuple. Il s'enquit d'eux où devait naître le Christ pour savoir exactement de quoi retournait cette parole des mages. Et ils lui dirent, à Bethléem de Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, mais c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. » Les grands prêtres, les scribes, les docteurs du peuple, confirment la parole des mages. Les mages ont été amenés à Jérusalem par Balaam, et c'est l'Écriture même, c'est le prophète même qui parle, eh bien, de Bethléem comme étant le lieu précisément où doit naître le Messie, qui doit être le chef et régir Israël, le peuple de Dieu. Hérode est intéressé de connaître la doctrine. Vous voyez, il y a énormément de gens qui, lorsqu'ils se convertissent, se plongent, sinon dans la parole de Dieu, mais du moins dans les enseignements du magistère, qui chaque jour prennent leur dose d'encycliques, prennent leur dose d'allocutions et autres choses comme ça, et ils peuvent s'en nourrir pendant plusieurs années, puisqu'il y en a pléthore, les derniers papes ont donné énormément d'instructions, donc d'enseignements. Donc chaque jour ils s'instruisent, en réalité, mais ils sont dans le trouble. Pourquoi sont-ils dans le trouble? Parce que, d'une certaine manière, quelque chose leur dit qu'ils ne sont pas exactement là où ils doivent être, qu'ils ne font pas exactement ce qu'il faut faire. Pourtant, ils cherchent la vérité là où elle se trouve. Deo gratias. Ils cherchent la vérité là où elle se trouve. Ils sont caractérisés par l'exemple d'Hérode. Ils sont dans un certain aveuglement. Malheur à ceux qui écoutent ou qui enseignent le christianisme et qui ne pratiquent pas ses maximes. Que l'on soit prêtre ou que l'on soit laïque, on peut très bien se plonger dans la consultation des princes, des prêtres et des scribes du peuple sans écouter, c'est-à-dire véritablement mettre en pratique, obéir aux commandements et aux maximes de l'Évangile. Les prêtres, nous disent les commentateurs, avaient peur d'Hérode, et lui vouaient une sorte de fausse fidélité, de telle sorte que eux-mêmes ayant entendu les mages, eux-mêmes ayant défini exactement là où les mages devaient chercher, il se trouve que par une sorte de crainte, la crainte de se faire massacrer tout simplement, par Hérode, il se trouve que les prêtres se sont bien gardés, nous disent les commentateurs, se sont bien gardés de suivre les mages, justement nous chanterons tout à l'heure le cantique « Allons, suivons les mages », ils se sont bien garder de suivre les mages pour vérifier si, après tout, par hasard, ils n'auraient pas des informations valables sur la naissance actuelle du Messie. Eh bien, malheureusement, mes très chers frères, bien souvent, eh bien, les prêtres de nos jours sont esclaves des Hérodes laïques, et bien que consultés par eux, ils se gardent bien de leur dire ce qu'ils doivent faire, sinon ce qu'ils doivent croire, bien entendu, puisqu'ils leur disent ce qu'ils doivent croire, mais ce qu'ils doivent faire, de peur d'être massacrés par eux. Alors pas évidemment littéralement, mais c'est peut-être pire. Il vaut mieux peut-être être massacré par quelqu'un plutôt que d'encourir la colère illégitime de quelqu'un, avec tout ce qui s'ensuit. Bien entendu que Dieu garde ses prêtres. Mais vous voyez, Hérode terrorisait les prêtres. Et les prêtres sont souvent terrorisés par ces chrétiens qui s'enquièrent auprès d'eux du christianisme, mais qui ne désirent que tirer la couverture à eux. Et c'est presque un fait sociologique aujourd'hui, même dans le microcosme qui est le nôtre. Ils renseignent donc, ils disent la vérité, comme tous nos prêtres disent la vérité, mais ils ont peur. Et donc, ils ne vont pas expérimenter eux-mêmes cette vérité de peur que Hérode ne se retourne contre eux. Allons encore un petit peu plus loin. Hérode désire la connaissance. Il s'enquiert auprès des prêtres. Les prêtres disent, effectivement, c'est à Bethléem que le Messie doit venir, doit naître. Il est le roi des Juifs qu'il faut aller adorer. Et Hérode ne leur dit pas, votre exégèse ne me plaît pas. Il les croit. Ils les croient parce qu'ils savent qu'ils disent la vérité. Personne ne conteste ici la doctrine des prêtres, puisque c'est une doctrine orthodoxe. Mais Hérode, voyez-vous, est animé du désir de posséder la connaissance pour imposer sa volonté. C'est pour cela que, après avoir été renseigné et rassuré sur l'orthodoxie des mages par les prêtres, Hérode prit les mages en particulier et s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Donc il a écouté les mages, il a recueilli la doctrine qu'il savait être orthodoxe. Puis il les envoya à Bethléem et dit, allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, donc il le croit, Hérode a la foi d'une certaine manière, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Hérode veut l'adorer, et pourquoi douter de sa bonne foi? Hérode veut l'adorer. Évidemment, il n'allait pas leur dire « Moi, je voudrais le trouver pour le massacrer. » Sinon, vous pensez bien que les mages auraient dit « Il y a quelque chose de relativement hétérodoxe chez ce roi. » « Moi aussi, je veux l'adorer. » Tout le monde veut adorer. Personne ne veut tirer la couverture à soi. Personne ne veut faire quelque chose d'autre que suivre la religion chrétienne. Mais écoutez bien ce que dit Hérode, si j'ose paraphraser. « Moi aussi, afin que moi aussi j'aille l'adorer à ma façon. » Moi aussi, j'ai une façon d'adorer, voyez. Et j'aimerais bien ce petit Messie qui est né, j'aimerais bien, par exemple, l'offrir en holocauste. C'est une manière d'adorer. Après tout, Dieu n'a-t-il pas demandé des holocaustes, etc. Jephté n'a-t-il pas offert sa fille, etc. Alors, c'est ma petite façon d'adorer, voyez. Nous sommes entre gens orthodoxes, ici. Les mages sont orthodoxes, les princes des prêtres et les scribes sont orthodoxes. Hérode n'est pas un hérétique. À la rigueur, c'est un orthodoxe qui cherche à connaître précisément cet enfant, afin que lui aussi puisse l'adorer à sa manière. Que voyons-nous ici, mes très chers frères, pour nous? Encore une fois, rien ne sert de déblatérer contre Hérode, qui est mort, qui est en enfer, probablement. Il se trouve que, mes très chers frères, nous devons voir dans la personne d'Hérode la fourberie du vieil homme. La fourberie du vieil homme. Et quand on dit du vieil homme, ce n'est pas simplement un méchant roi, un massacreur, quelqu'un que l'empereur méprisait, ce n'est pas un hérétique, ce n'est pas... C'est quelqu'un qui est en nous. C'est quelqu'un qui se confond avec nous. C'est ce qu'on appelle le vieil homme, le vieil Adam. Il manifeste la fourberie du vieil homme qui est curieux de la doctrine, mais pour s'imposer à elle, et non pas pour s'y soumettre. C'est le vieil homme qui se livre ici à des recherches curieuses, c'est-à-dire des recherches selon la curiosité. Il veut approfondir l'écriture, mais c'est pour détruire les maximes de l'Évangile. Il veut, extrapolons même, avoir des informations exactes, les plus exactes sur cet enfant, parce qu'il veut enseigner sa propre doctrine sur cet enfant, sans mission, sans lumière. Le seul et unique but d'Hérode, eh bien, c'est de briller parmi les hommes. Si j'ose dire, pour extrapoler un petit peu, c'est de briller parmi les hommes et affermir sa propre royauté. Donnez-moi des informations très exactes sur cet enfant, afin que moi aussi je l'honore et je l'adore à ma manière. Combien, mes très chers frères, combien étudie l'Écriture sainte, étudie les textes du magistère, étudie la tradition, mais c'est pour briller parmi les hommes, pour faire quelque chose. Alors vous allez dire, tout le monde ne fait pas ça pour briller, parce qu'il peut y avoir de l'humilité. Il y a énormément d'humilité, évidemment, là où il y a de l'orgueil. Faire quelque chose, sinon on ne fait rien. Si vous nous dites de ne pas faire cela, on ne fait rien, on ne fait rien. Comment, vous n'avez rien à faire que de vous enquérir exactement auprès des mages sur cet enfant pour aller l'adorer à votre façon? Vous n'avez rien d'autre à faire? Vraiment, vous n'avez rien d'autre à faire? Briller parmi les hommes, faire quelque chose, et puis aussi faire de l'argent. Hein. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de vendeurs de papier et qui font de l'argent, qui veulent faire de l'argent, évidemment pour la plus grande gloire de Dieu, comme cela s'est toujours fait, bien entendu. Donc, il ne faut pas oublier cela. Vous voyez, on édifie son prochain en lui proposant de faire de bons investissements. Donc, vous voyez, mes très chers frères, Hérode se tapit partout. Il se tapit ailleurs, il se tapit ici, il se tapit en moi, en vous, partout. Nous avons tous un vieil homme, nous avons tous le vieil homme. Nous avons tous cette hideuse rémanence du péché originel, cette blessure substantielle en quelque sorte, qui bien souvent est une sorte de double de nous-mêmes, qui nous qui voulons faire le bien et qui ne le faisons pas, qui sentons en nous-mêmes quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Vous voyez, Hérode représente le vieil homme qui est extrêmement orthodoxe chez les bons chrétiens, qui est très curieux de la doctrine, mais pour s'imposer et pour adorer à sa façon l'enfant Jésus qui vient de naître. Revenons maintenant aux mages. Et voici que l'étoile, c'est notre deuxième point, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie. Jésus-Christ lui-même guide les rois mages. instruits de l'Écriture par les prêtres, il se trouve qu'ils sont conformés, confortés dans leur certitude qu'ils suivent une révélation qui est véritable. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut suivre des révélations privées, bien entendu, ce n'était pas une révélation privée, ils avaient eu la révélation que la prophétie de Balaam s'était accomplie. Donc, ce qui les avait amenés à Jérusalem, ce qui les avait amenés en Terre Sainte, le désir de voir et d'adorer le roi des Juifs, le Messie, eh bien, a été conforté, confirmé par la doctrine orthodoxe que nous enseigne l'Église. Il faut toujours que la raison pour laquelle nous sommes venus au christianisme soit conforme à l'Évangile, soit conforme à la doctrine de l'Église. Si nous sommes venus à l'Évangile pour toutes sortes de voies, de raisons, qui sont sans doute bien souvent bien inférieures à celles des mages, alors, et que nous nous apercevons qu'elle ne correspond pas à la doctrine de l'Évangile, alors nous devons, en quelque sorte, avoir l'humilité de laisser tomber l'amorce pour nous emparer de l'orthodoxie, de la doctrine. Vous voyez, on vient au catholicisme parce qu'on se rend compte que le monde est piloté par des méchants qui veulent le malheur des peuples. On se rend compte que l'école nous a trompés. On se rend compte que finalement les livres d'histoire sont absolument à refaire. On se rend compte que le gauchisme nous a intoxiqués, etc. Choses qui sont vraies à leur niveau. Mais si c'est pour cela que nous sommes devenus chrétiens, si on se rend compte que la France a été grande dans la mesure où elle a servi l'Église et qu'elle est dans l'abjection dans la mesure où elle s'est détournée de l'Église, et que par ailleurs on se rend compte qu'on apprend que dans la doctrine catholique que la grâce ne peut pas être mise au service d'un bien moindre que celui de la vision béatifique, qu'on ne peut pas asservir Dieu à la grandeur même de notre patrie, mais que c'est une chose surérogatoire que Dieu nous accorde, s'il le veut, dans certaines circonstances, parce que il veut récompenser d'abord et avant tout sa propre œuvre en nous et le chemin qu'il nous fait faire vers le ciel, alors, mes très chers frères, tout ceci, il faut progressivement le laisser tomber, en disant finalement, le bon Dieu a vu que j'étais tellement mauvais, tellement matérialiste, tellement orgueilleux, qu'il m'a eu, en quelque sorte, par l'orgueil. Il a mis sur le bout de l'hameçon de la grâce un petit ver de terre qui m'a tenté, moi, qui appâté, moi, qui étais tellement orgueilleux. Une fois que je l'ai gobé, maintenant je m'aperçois que le christianisme, c'est autre chose. Et ne disons pas, mais alors, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas appelé directement par l'étoile des rois mages et que je suis venu par quelque chose que je dois laisser tomber? Contemplez, mes très chers, contemplons l'immensité de notre corruption. Contemplons l'immensité de notre dureté de cœur et de notre orgueil. Pour nous appâter à la vérité, en quelque sorte, Dieu s'est abaissé à une certaine condescendance envers notre propre concupiscence. Maintenant que nous avons fait un pas et que nous sommes rentrés dans l'Église, sachons rejeter tout ce qui est incompatible avec les maximes du Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui doit nous guider. Et nous savons qu'il nous guide dans la mesure où il nous est donné de mettre en pratique les maximes de l'Évangile qui se résument finalement à cette parole de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si la grâce n'est pas donnée, mes très chers frères, l'enseignement de l'Église, l'enseignement que nous recevons de l'Église ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être donné, il doit être donné. Mais il aura exactement le même effet sur nous que l'enseignement orthodoxe donné par les princes, les prêtres et les scribes à Hérode. Est-ce qu'ils lui ont menti? Non. Est-ce qu'ils auraient dû lui dire autre chose? Non. Est-ce que ça a eu un impact positif sur lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la grâce pour croire à salut. Il a cru ce qu'ont dit les mages et les princes des prêtres. Mais cela ne lui a pas servi à salut. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie. Mes très chers frères, avec la lumière, Dieu donne la lumière de la foi, Dieu donne la joie, c'est-à-dire l'expérience de la vérité. Si la charité est dominante en nous, c'est-à-dire si elle est plus forte que cette concupiscence qui nous porte à nous préférer nous-mêmes et à préférer notre volonté propre à la volonté de Dieu, et donc aux maximes de l'Évangile, si nous avons cette charité qui domine en nous, Alors elle est le soutien de la foi. Je vous rappelle que la foi, on peut très bien l'avoir, même jusqu'à transporter des montagnes, sans que cela nous serve à rien si la charité n'est pas là. La foi, sans la foi, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être dans l'Église et avoir une foi différente de l'Église. C'est vrai, mais on peut avoir une foi morte. La foi n'est vivante que par la charité, parce que la charité fait opérer à la foi les œuvres de la foi, c'est-à-dire qu'elle manifeste que la foi est vive. La foi, on peut la voir, mais morte. Rien n'est plus terrible, mes très chers frères, qu'une foi, et par la foi, je dirais une orthodoxie relative, rien n'est plus terrible qu'une foi que les sacrements reçus avec une mauvaise préparation rendent stérile. Alors vous allez dire, mais j'ai la foi, c'est déjà pas mal. Regardez, il n'y a quasiment plus personne qui a la foi. Il n'y a quasiment plus personne sur Terre qui a la foi, mes très chers frères. Mais parmi ceux qui ont la foi, parmi les rarissimes qui ont la foi, combien ont les œuvres? Alors vous allez dire, regardez les œuvres que je fais. Attendez, 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 cher Hérode, pas ces œuvres-là. Les œuvres de la charité. Et la charité procède toujours selon l'ordre. Sinon, c'est tout simplement un enthousiasme, un faux amour de Dieu, l'amour de soi, etc. C'est le désir ardent qu'Hérode avait de trouver l'enfant Jésus afin de l'adorer à sa façon. Ça, c'est la fausse charité. Vous voyez, un grand désir. Hérode, plus que personne à ce moment-là, peut-être même plus que les mages, désirait trouver notre Seigneur. Mais pour quoi faire? Ça, c'est autre chose. Pour l'adorer à sa façon. Rien n'est plus terrible, mes très chers frères, qu'une foi que les sacrements reçus avec une mauvaise préparation rendent stérile. Elle se retourne contre celui qui la professe, et c'est déjà une grande grâce que de professer la foi orthodoxe, elle se retourne contre celui qui la professe et contribue au dessein d'Hérode. Adorer Dieu à sa façon. Il y a une douceur lorsque l'on se soumet à l'ordre. Il y a une joie lorsque l'on renonce au désordre. C'est une chose qui est inconnue de ceux qui vivent dans le désordre. Il y a une paix, une joie, une paix profonde qui descend dans le cœur lorsque l'on se met dans l'ordre et lorsque l'on obéit au commandement de l'Évangile et qu'on arrête d'adorer le Christ à sa façon, à sa petite manière, selon sa petite idée. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Nous avons fléchi le genou à ces mots tout à l'heure, mes très chers frères. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. La pauvreté extrême où se trouve la Sainte Famille ne les rebute pas, car leur cœur recherche Dieu pour lui-même. Après être certain d'avoir trouvé l'enfant Jésus, conformément à la prophétie de Balaam, conformément à la prophétie d'Isaïe, conformément à l'enseignement des princes, des prêtres et des scribes du peuple, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent à peu près la même chose que cet enfant qu'ont trouvé les bergers, un enfant dans la pauvreté extrême, dans cette grotte. Alors certains disent qu'ils avaient changé de maison, peu importe. Il se trouve que c'est un enfant qui était dans une pauvreté extrême, de parents extrêmement pauvres. C'était un enfant qui n'avait rien, en quelque sorte, il était le plus beau des enfants des hommes, bien entendu, et sa mère la plus belle des filles des hommes, mais il se trouve que, à part cela, qui n'était visible que par la foi, et la foi nous fait voir les choses telles qu'elles sont, en réalité, mais il cherche Dieu pour lui-même, et non pas pour ce qu'il peut leur apporter. Vous voyez, ceux qui cherchent Dieu pour faire de l'argent, pour briller devant les hommes, pour se faire un nom, pour faire quelque chose, quand bien même ils trouveraient Dieu, ils le mépriseraient. Parce que Dieu leur apparaîtrait quiétiste, Dieu leur apparaîtrait nonchalant, Dieu leur apparaîtrait indigne de Dieu. Vous voyez, la pauvreté extrême de l'enfant Jésus ne les rebute pas, car leur cœur cherche Dieu pour lui-même. Apprenons, nous dit un auteur, apprenons chez ces premiers chrétiens qu'il faut s'humilier, adorer Jésus-Christ et se donner tout à lui quand on l'a une fois trouvé. Quand on a trouvé notre Seigneur, il faut s'humilier avec lui. Parce qu'il est écrit que l'orgueil précède la chute. Et ça, c'est une chose qu'il faut beaucoup méditer, mes très chers frères. L'orgueil précède la chute. En revanche, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, dit l'apôtre, et il vous élèvera au temps convenable. Que signifie il vous élèvera? Il vous élèvera, mais pas selon votre petite idée. Il vous élèvera, mais pas dans la mesure où vous aurez cherché à l'adorer avec Hérode. selon votre mode propre. On adore notre Seigneur Jésus-Christ qu'en lui offrant ce qui est digne de lui. Et que lui ont-ils donné? Que lui ont-ils offert? Ses pères dans la foi, ses rois mages, eh bien, ils lui ont offert des prêts pour présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La signification est très commune, mais il faut très connue, mais il faut la rappeler. L'or de la charité, cette charité qui domine dans le cœur, cette charité, cet amour de Dieu qui fait que nous persévérons dans la justice, nonobstant le fait que nous pouvons tomber, nous pouvons être faibles, etc. Mais nous désirons persévérer dans la justice et effectivement, il se trouve que nous faisons les efforts pour persévérer dans la justice. C'est l'or de la charité. Est-ce que vous croyez que l'or ne vaut rien? Si notre justice est une justice qui est une justice qui dure quelques microsecondes entre deux confessions, ce n'est pas de l'or, c'est plutôt du... autre chose. L'or de la charité, c'est pas simplement l'enthousiasme qu'on a quand on lit des encycliques et qu'on a l'impression qu'on est prêt à casser la figure au monde entier. L'or, c'est la charité, c'est-à-dire, c'est le service de Dieu selon l'ordre. L'or, la matière la plus précieuse au monde, celle qui est déjà mentionnée avant même la chute de l'homme. Relisez la Genèse, vous verrez que l'or est mentionné avant même la chute de l'homme. L'or de la charité, la vraie charité, l'encens de la prière. On fait les choses pour Dieu et on oublie de prier. Pourquoi? Parce que prier, c'est perdre son temps. Ou alors on dit des gros chapelets, après manger des grosses saucisses comme des gros paysans et des gros croisés qui vont faire des grosses croisades et qui vont casser des petits mécréants, mes très chers frères. L'encens de la prière, est-ce que quand on encense l'autel, quand on encense le Saint-Sacrement, est-ce qu'on balance des grains d'encens sur le Saint-Sacrement? Est-ce qu'on met de l'encens partout? Non. On prend une petite cuillerée d'encens, on la met sur le charbon, l'encens change en quelque sorte d'état puisqu'il se volatilise par la chaleur du charbon, et cette suave odeur monte vers Dieu, symbolisant la prière. Il faut que notre prière soit un encens. Il ne faut pas s'imaginer que des prières maldites, il ne faut pas s'imaginer que des chapelets utilisés comme on n'utiliserait pas des mitrailleuses et des obusiers plaisent à Dieu. Il faut que notre prière soit pure. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être un saint pour prier, sinon personne ne prierait jamais à part les saints. Et comment deviendra-t-on saint si on ne priait pas? Il faut que notre prière soit exempte de distraction au maximum. Il faut que notre prière soit exempte de mauvaises pensées. Il faut que notre prière, que ce sacrifice de l'encens, tel que nous lisons dans la liturgie, eh bien, soit un sacrifice qui soit donné après s'être réconcilié avec nos frères. Après avoir être sorti du monde, après avoir coupé les ponts avec ce qui déplaît à Dieu. Cet encens très pur de la prière doit monter vers Dieu afin que ses narines divines puissent le sentir. Avec les encens modernes qu'on propose au clergé, des fois il y a des encens très étranges qui comme ça, et puis que quand on les qui sont sous prétexte que ce sont des nouveaux encens qui changent un petit peu de la liturgie dans l'encens qu'on connaît, ben, ce sont des choses qui sentent extrêmement mauvais. Nous en avons fait l'expérience parfois, sinon ici du moins ailleurs. Mais tout encens ne plaît pas à Dieu, tout encens ne sent pas bon. L'encens que les rois mages ont donné symbolise la prière la plus pure que nous devons faire monter vers Dieu. L'or de la charité, l'encens de la prière, chacune de nos actions doit être faite dans un esprit de prière. Chacune de nos actions doit être purifiée afin que l'intention soit droite. Toutes les actions que nous faisons sans que l'intention y soit ou sans que l'intention droite y soit exprimée et maintenue, évidemment, il ne s'agit pas simplement de 20 mots, mais de... est une prière qui est un encens qui déplaît à Dieu, un encens puant. Notre encens doit être aussi pur que l'or offert qui symbolise la charité. Et pour que l'or vaille quelque chose et que l'encens soit pur, il faut rajouter la myrrhe. La myrrhe, qu'est-ce que c'est? La myrrhe, c'est une sorte d'encens mais utilisé pour la sépulture. Ça peut être utilisé pour l'encens, mais c'est aussi utilisé pour la sépulture. Eh bien, cette myrrhe, les commentateurs nous disent qu'elle désigne mystiquement la mort de notre Seigneur, son humanité donc, sa mortalité, mais il se trouve que pour nous c'est la mortification. L'or ne peut être épuré, l'encens ne peut être odoriférant que par la myrrhe de la mortification. Si nous faisons quelque chose autrement que purifié par l'esprit de pénitence, cette chose va être impure, elle va être puante, elle va être non agréable à Dieu. Et quand on dit non agréable, elle va être désagréable à Dieu. Combien de chrétiens font des choses, offrent à Dieu des choses que Dieu n'agrée pas? Et ce n'est pas parce que Dieu ne leur dit pas qu'ils ne l'agréent pas, qu'ils ne l'agréent pas. D'ailleurs, Dieu leur dit, il leur dit par les pasteurs fidèles, il leur dit par les prêtres qui ne tremblent pas devant les Hérodes. La mire de la mortification, si on l'oublie, eh bien, il se peut très bien, et c'est même presque nécessaire, que l'or ne soit pas pur et que l'encens pue. Si l'un de ces présents fait défaut, l'adoration est défectueuse. Et on se prépare à quoi? On se prépare à l'infanticide du divin enfant qui a été mis en nous par le baptême, c'est-à-dire le triomphe du vieil homme, le triomphe d'Hérode. Il nous faut, si nous croissons et que nous faisons diminuer la marque du caractère sacramentel, la marque du caractère que nous avons, qui a été imprimé en nous par le baptême, eh bien, mes très chers frères, nous faisons exactement le contraire de ce qu'il faut faire, et nous donnons la main à Hérode. Quand bien même cet Hérode serait orthodoxe et serait très désireux de connaître le Christ. C'est pour ça que dans la post-communion par laquelle nous avons commencé les mots de ce sermon, les premiers mots de ce sermon, nous disons à Dieu, Dieu Tout-Puissant, donnez-nous la pureté de cœur et de l'esprit, du cœur et de l'esprit, pour entrer dans l'intelligence des mystères que nous honorons en ces fêtes solennelles. Littéralement, Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant, dans l'absolu, faites que Dieu Tout-Puissant, utque solemni celebramus officio, purificate mentis intelligentia consequamur. Dieu Tout-Puissant, faites, s'il vous plaît, que nous qui célébrons cet office solennel, nous puissions, comment le dire littéralement, par l'intelligence d'un esprit purifié, nous puissions en tirer les conclusions pratiques qui s'ensuivent. Voilà comment on peut paraphraser la deuxième partie de la post-communion. Que par l'intelligence, intelligentsia, par l'intelligence d'un esprit purifié, oui, purificate mentis, nous puissions, consequamur, qu'est-ce que ça veut dire consequamur? C'est-à-dire tirer les conclusions pratiques qui s'en suivent. C'est-à-dire que nous puissions vivre de manière à mettre en pratique ce que notre intelligence renouvelée, pour parler comme saint Paul, nous a fait comprendre dans ces divins mystères que nous célébrons aujourd'hui en la fête de l'Épiphanie. Tout ce que nous demandons à Dieu, dans le fond, c'est que notre or, notre encens et notre myrrhe soient agréés par lui, ils soient agréables. Nous en arrivons à notre troisième et dernier point. Dans la secrète, justement, on parle de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Écoutez comment on en parle. Considérez avec bienveillance, Seigneur, les dons de votre Église, où désormais ce n'est plus l'or, l'encens et la myrrhe que l'on vous offre, mais ce qui, par ces dons, est manifesté, immolé et pris en nourriture, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. L'or, l'encens et la myrrhe, c'est les moyens, la charité, la prière et la mortification, c'est ce par quoi nous offrons à Dieu ce culte raisonnable que nous devons lui offrir. Et que nous pouvons lui offrir depuis que nous avons été faits enfants de Dieu par le baptême. Mais c'est moins quelque chose de distinct de lui que lui-même que nous lui offrons. Non iam aurum tus et mira profertur. Ce n'est plus aujourd'hui des symboles que nous offrons à Dieu, mais c'est la réalité de la charité, la réalité de la prière, la réalité de la mortification. Si la charité, la prière et la mortification ne sont pas réelles, mes très chers frères, non seulement nous n'utilisons pas nous n'usons pas des moyens en dehors des, sans lesquels on ne peut pas adorer Dieu de la manière convenable, mais nous n'avons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Et combien ont un or, un encens et une myrrhe impurs qui s'imaginent quand même non seulement avoir notre Seigneur Jésus-Christ, mais si j'ose dire, l'avoir à leur botte. L'adorer, le découvrir et l'adorer à la manière d'Hérode. Or, il se trouve, vous allez dire, et pourtant, il me semble que vous avez, je vois sur la crédence, vous avez préparé l'or, l'encens et la myrrhe. Bien sûr, l'or, l'encens et la myrrhe, l'Église, en ce beau jour, nous les offre à nous comme des sacramentaux pour nous protéger de l'influence des démons. Ce sont de puissants sacramentaux, ces offrandes symboliques des rois mages. Mais, mes très chers frères, pour nous offrir des démons, pour nous avons l'eau bénite, nous avons l'or, l'encens et la myrrhe bénis lors de la fête de l'Épiphanie, mais, mes très chers frères, qui nous protégera de l'Hérode intérieur? Il n'y a pas de sacramental, il n'y a même pas de sacrement contre l'Hérode intérieur. Si, il y en a un, c'est le baptême qui l'a fait mourir, et pourtant il est toujours là. Ce n'est plus lui exactement de la même manière qu'avant. C'est une trace de cet Hérode intérieur. Alors déjà, souvenons-nous, quand Hérode régnait en nous, avant le baptême, quelle tyrannie du péché, quelle tyrannie de la concupiscence. Mais aujourd'hui qu'il ne règne plus, je l'espère, quelle blessure, quelle cicatrice, quelle marque, quel stigmate. Qui nous protégera de l'Hérode intérieur? Alors vous allez dire, n'y a-t-il pas un gros Agnus Dei, une grosse médaille de Saint-Benoît qu'on pourrait porter, qu'on pourrait même se faire incruster comme une puce? Mais maître Schaeffer, ne dites pas de bêtises, je plaisante bien entendu, mais qui nous protégera de l'Hérode intérieur? Hein, ce n'est pas l'or, l'encens et la myrrhe, ce n'est même pas les noms des rois mages qui seront écrits sur nos portes avec les craies bénites à cette occasion, toujours dans la fête de l'Épiphanie. La seule façon, la seule arme qui nous protégera de l'Hérode intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence d'un esprit purifié. Intelligentsia purificate mentis. C'est l'intelligence d'un esprit purifié. Ayez du discernement. Connaissez, dit saint Paul, quelle est la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour nous, ça se voit pas dans une boule de cristal. Hein, ça se voit pas non plus dans un écran d'ordinateur. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous fassions aujourd'hui les devoirs qui nous ont été prescrits par l'état dans lequel Dieu a voulu que nous soyons. Parfois, nous sommes entrés dans cet état, comme l'état clérical, par appel, par vocation, l'évêque nous a appelés à servir l'Église. Parfois, nous sommes entrés volontairement dans tel état, dans l'état de mariage, etc., par exemple, dans telle profession, parce que nous avions des dispositions qui nous y ont poussé, et puis des fois on se retrouve dans des états où nous n'aurions pas forcément pensé entrer, mais nous y sommes rentrés, et d'une certaine manière, Deo gratias, c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée, tant mieux, il ne faut jamais regretter quand on se retrouve dans l'ordre, d'une manière ou d'une autre, mais il faut maintenant vivifier cet état en amont par l'intelligence d'un esprit purifié, par une volonté fermement orientée, par la charité dominante. Voilà comment on se protège et on combat, et même on vainc et on triomphe de l'Hérode intérieur, par la volonté fermement orientée par la charité dominante. Pas par des velléités d'une volonté qui est comme une girouette qui suit le vent de la concupiscence, de la triple concupiscence. La volonté fermement orientée par la charité dominante. Voilà le seul moyen de vaincre Hérode. Vous allez dire, et la grâce, alors la grâce de Dieu, la grâce invincible dont vous parlez souvent, mais la grâce invincible de Dieu se manifeste par l'existence d'une volonté fermement orientée par la charité dominante. Ne pensez pas que la grâce va venir faire passer le balai et taper Hérode et l'emprisonner, voire le tuer sans que vous fassiez rien du tout. La grâce vous est donnée, la grâce nous est donnée, mes très chers frères, afin que nous en fassions bon usage par la grâce de Dieu, et que, avec l'aide de Dieu, notre volonté soit par la grâce fermement orientée par la charité dominante. Et comment cela s'acquiert-il? Cela ne s'acquiert que par exactement le contraire de ce qui est à l'origine du trouble d'Hérode. Pourquoi Hérode a-t-il été troublé? Parce qu'il a été vexé d'entendre parler du roi des Juifs alors que c'était lui qui croyait être le roi des Juifs. Là, tout ceci ne... Donc par le contraire de l'orgueil, c'est-à-dire par l'humilité. Alors vous allez dire, oui, mais si je suis humble, il faut être humble devant Dieu et fier devant ses ennemis. Où est-ce que vous avez entendu ça? Dans un poste? En tout cas, certainement pas dans la tradition que l'Église nous enseigne. Il faut être humble devant Dieu afin que nous soyons protégés de la manière que Dieu voudra de nos ennemis. Sinon, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, un peu comme quand il y a deux chiens ou deux chats qui se battent, quand bien même le combat serait terminé, ils sont tellement tendus et comme ça que même si leur maître vient et vient de les féliciter en quelque sorte d'avoir triomphé de leur ennemi, ils mordent le maître, tellement ils sont encore dans la tension. Vous voyez, la fierté devant les hommes, on roule des mécaniques en s'imaginant être un super chrétien, et puis on se dit, mais je suis humble devant Dieu seul. Ah bon? J'aimerais bien voir ça. Soyez humble devant Dieu, et Dieu lui-même combattra pour vous. Soyez humble devant Dieu, mes très chers frères, et vous verrez que cette humilité n'est que l'envers de la force réelle, et pas la force des rodomontades de quelques croisées d'Internet qui d'ailleurs tremblerait à la simple idée qu'on le mette en prison pour ses opinions. Lui qui n'est qu'un simple écrivain, un simple blogueur. Tous ces gens-là sont très, si j'ose dire, mais je ne profanerai pas la chair de vérité en utilisant des mots mondains. Mais tous ces gens-là, ils peuvent dire, je suis, hein, vous l'êtes complètement. Vous l'êtes complètement, vous qui n'assumez pas. Donc, il se trouve, mes très chers frères, que on obtient le triomphe sur l'Hérode intérieur, c'est-à-dire on ne peut suivre les mages véritablement à salut que par l'humilité. Toujours la même chose, rien de nouveau. Hein, même en cette magnifique fête de l'Épiphanie, je n'ai rien de nouveau à vous enseigner. Heureusement, sinon ça serait faux. Je ne peux que vous enseigner ce que l'Église nous enseigne depuis toujours. Contempler notre Dieu dans le dénuement de notre crèche et voir combien nous sommes empêtrés dans la subtilité de notre la grande appréciation que nous nous portons à nous-mêmes. Contempler notre Dieu dans le dénuement de la crèche et comprendre qu'il est aussi puissant qu'il est pauvre. C'est-à-dire qu'il est dans le dénuement absolu, il est dans un endroit abject, même où un être humain normalement ne devrait pas naître. Eh bien, il était impossible de manifester la puissance de notre Dieu et sa richesse autrement que par l'usage, nous disent les commentateurs, de ce symbolisme inversé qui représente le plus grand par le plus petit. C'est un tout petit enfant dans une toute petite crèche, dans une étable, dans une vieille grotte où viennent se réfugier, nous disent les auteurs, des bœufs, un bœuf et un âne contre la pluie. Après que ses parents aient été chassés de l'hôtellerie où il n'y avait plus de place. Ce dénuement de notre Dieu dans la crèche témoigne de la grandeur et de l'invincibilité, de la richesse des mystères de la grâce. Accepter de ne faire que sa volonté, volonté ordinaire qui est manifestée par l'État, volonté extraordinaire, et c'est ce que nous subissons et qui nous perfectionne en nous faisant changer en mieux. Bien entendu, des fois il y a des choses qui nous arrivent et auxquelles il faut nous soumettre afin de pouvoir nous laisser raboter, de pouvoir laisser raboter le vieil Hérode, si j'ose dire. La plupart du temps, il suffit simplement de suivre la volonté ordinaire de Dieu qui se manifeste. Elle se manifeste pour tous, mais un petit peu différemment en fonction de ce qu'on est, prêtre, père de famille, mère de famille, enfant, petit enfant, jeune enfant, etc., apprenti, que sais-je. Contempler notre Dieu dans le dénuement de la crèche, accepter de ne faire que sa volonté, accepter une volonté ferme, se résoudre à ne faire que sa volonté, ce qui nous campe dans notre état, donc nous rend virtuellement tout puissant. Celui qui marche, mes très chers frères, à la lumière de l'étoile, échappera à l'éclat de son ardeur au jour où elle viendra juger les vivants et les morts. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous qui êtes apparu aux rois mages, nos pères spirituels, en ce jour de votre épiphanie, luisez sur nous, donnez-nous votre grâce et donnez-nous de triompher, de surmonter de cet horrible infanticide qu'est Hérode, l'Hérode intérieur. Donnez-nous d'être tout petit comme vous, afin d'être grand en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.